résistance à l'impôt, attachement à l'État, enquête sur les contribuables français, seuil, septembre 2018, Paris seuil même, qui fait suite surtout à plusieurs ouvrages marquants autour de la question fiscale. Il y a cité d'autres ouvrages, mais je vais citer plus particulièrement. Donc, Histoire fiscale de l'impôt, c'était en 2010.
Histoire sociale de l'impôt.
J'ai dit quoi ?
Histoire fiscale.
Ça, c'est possible. Ça, c'est vraiment débile.
Déjà que c'est rebutant, quel la lapsus, fiscalité. Alors, vraiment. si on
redouble
en disant
histoire fiscale de l'impôt. Je l'ai écrit. Le pire, c'est que je l'ai écrit. Enfin, c'est vraiment ça ce qui redouble la nullité du lapsus. Mais bon. Avec Nicolas Delalande, donc, Faible et puissant face à l'impôt. Donc, ça, c'était chez Raison d'agir. Histoire sociale de l'impôt, j'ai pas noté, mais c'était Seuil, je pense, déjà.
C'était la découverte.
Non, c'est la découverte. Bon. Ah oui, c'est vrai. L'impunité fiscale, quand l'État brade sa souveraineté en 2015 avec Katia Weidenfeld. Pardon. Alors, d'abord, peut-être premier constat, enfin, on pourrait dire que c'est un objet qui a toutes les chances de rester longtemps au centre de l'actualité. Donc c'est un bon choix d'objet, enfin, ce que je veux dire. Politique, économique, sociale. Mais alors, le thème plus précis de résistance à l'impôt, attachement à l'État, donc, qui est sorti en septembre 2018, s'est trouvé particulièrement en phase, donc bien sûr, avec l'actualité, en particulier avec l'émergence, quelques temps après, d'un mouvement, le mouvement des Gilets jaunes, dont le point de départ est justement la hausse d'une taxe sur les carburants. Et je trouvais que c'était un exemple rare d'un livre de sociologie qui anticipe en fait l'événement, c'est-à-dire qui permet d'avoir les clés de l'événement. C'est quand même très très rare en fait. En général, on vient 3 ans après, hein, les sociologues, ou 2 ans au mieux, mais c'est très rare que. Ou alors on fait du commentaire rapide, mais là on a une enquête. Voilà, on le fait sur la base d'une double enquête dont je vais évidemment dire 2 mots plus précisément, qui est à la fois quantitative et qualitative, et donc je pense que ça méritait vraiment d'être relevé, alors pas seulement pour le sens donc, de l'objet pertinent, mais aussi d'une certaine manière de l'opportunité. Je pense du coup c'est un livre vraiment important de la période, puisqu'il est, il s'est trouvé en phase avec le cœur de l'actualité politique, économique, sociale du pays. Alors, deuxième remarque, l'enquête quantitative, il y a 2 parties, hein, je distinguais de manière un peu bête, mais parce qu'elles sont très bien articulées, je vais y revenir, mais l'enquête quantitative et l'enquête qualitative, mais je pense que c'est important quand même de dire qu'il y a ces 2 composantes. Il y a une enquête quantitative qui est une enquête centrée sur les, on va dire, les attitudes, opinions, pratiques des Français face à l'impôt et aux services publics, qui a été menée en février 2017. Elle porte sur un échantillon représentatif de la population résidant en France métropolitaine et âgée de 18 à 75 ans. Et donc elle fait partie du panel Ellipse, qui est une innovation méthodologique intéressante de la période récente. Bon, commence à être exploitée dans les années, on va dire, 2010. Dans le cas précis, donc, on a 2676 personnes qui ont répondu à des questions donc, sur leurs contacts, leurs échanges, leurs représentations. Des services fiscaux, mais aussi de l'école, de la police, de la justice. Et c'est une enquête, ça je pense, je vais essayer de vous en convaincre, mais je pense que la discussion nous amènera à le montrer, qui s'est révélée vraiment très riche, parce qu'elle a fait sortir à la fois des paradoxes, des résultats inattendus, plus ou moins contre-intuitifs, et a sollicité un travail interprétatif que je trouve très riche d'Alexis, de l'auteur, mais aussi d'ailleurs du lecteur, qui a amené à se poser une série de questions en lisant le livre sur les résultats de cette enquête. Et donc ça, c'est, je pense, un point à noter et sur lequel je reviendrai. C'est aussi l'ouverture à l'interprétation du livre avec des données, des tableaux croisés en particulier assez nombreux et que je trouve toujours très 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 riche. Alors ce travail donc quantitatif, c'est nourri et c'est doublé, mais de manière très articulée, très intégrée, d'une enquête, on va dire ethnographique, avec à la fois des observations et des entretiens auprès de contribuables, et donc dont les citations, je reprendrai un certain nombre à la fois pour illustrer, bien sûr, parce que le livre est très, j'allais dire, très vivant, et je ne voudrais pas en donner une vision moins vivante qu'il... Enfin, elle sera moins vivante que n'est le livre, sans doute, mais voilà, je voudrais quand même restituer une partie de cette vitalité, cette vivacité, je ne sais pas comment dire. Ces entretiens et observations ont été faits d'abord au guichet, enfin, à la suite d'observations au guichet pour les entretiens, de l'URSSAF, du RSI, et c'était dans 3 endroits, c'était l'Île-de-France, le Nord, la Seine-Maritime. Mais c'est déjà une trentaine d'entretiens qui ont été réalisés à partir d'observations qui avaient déjà pris du temps, même si ce n'est pas précisément chronométré dans le livre. Mais on peut imaginer que ça a pris pas mal de temps. D'ailleurs, ça peut faire partie des questions que j'aurais envie de poser. C'est la lourdeur de l'enquête qualitative en arrière-plan. On la pressent assez lourde. Et en plus, deux campagnes d'entretien dans le Finistère à l'occasion d'une révolte anti-impôt et qui a permis de faire toute une série d'entretiens complémentaires et qui vont illustrer tout particulièrement la thématique donc de la protestation, de la contestation face à l'impôt. Donc c'est un matériau très très riche et donc je voulais souligner que c'est en particulier dans l'écriture et dans l'ordre d'exposition du travail, une articulation particulière, enfin, je trouve particulièrement réussie de l'exposition des résultats, très équilibrée, très agréable à lire, je l'ai déjà dit, qui en plus apporte vraiment beaucoup de connaissances et parfois beaucoup de questions livrées avec les résultats de l'enquête, parce que voilà, l'interprétation est en quelque sorte suscitée par les données qui nous sont, le matériau, les données très riches et les interprétations aussi qui nous sont livrées. Voilà, donc je trouve que tous les très bons ingrédients sont réunis et que l'exposition est particulièrement réussie. Je voulais souligner sur l'enquête quantitative, qu'elle est à la fois classique, en ce sens qu'on peut dire que c'est une enquête, enfin, peut-être tu contesteras, mais que c'est quand même une enquête d'attitude, voire d'opinion, dans une certaine mesure, mais pas complètement classique non plus, parce que tu as gardé le contrôle des questions et de la façon de les formuler. Puisque si j'ai bien compris, tu pourrais y revenir, toi qui a proposé, en fait, qui a rédigé même le questionnaire. Ça, je pense que c'est un point assez important, parce que je vais revenir sur la discussion avec d'autres travaux mobilisant des données de type attitude, opinion sur les questions économiques en général et peut-être des services publics, de l'État et de la fiscalité plus particulièrement. Mais c'est en plus une passation qui se fait par des tablettes, par un système de tablettes, et avec une incitation forte pour les enquêtés à répondre, puisqu'ils bénéficient de la tablette, ce qui fait que les taux de réponse sont très très élevés. Enfin, la qualité de le taux de réponse, je ne l'ai pas renoté, mais il est vraiment extrêmement élevé pour une enquête d'attitude. Et ça, bon, c'est... Alors, comme tu n'as pas utilisé l'aspect panel de l'enquête ellipse, parce qu'une des critiques qui est faite sur l'enquête ellipse, souvent, c'est que le panel subit les problèmes habituels du panel, c'est-à-dire très forte attrition, enfin, toute une série de limites. Ici, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire on a vraiment une enquête sur un échantillon de taille confortable pour établir des effets significatifs. 2676 personnes et avec un bon taux de retour et donc avec un certain nombre de garanties au moins relatives sur la question de la représentativité sur laquelle on reviendra très certainement un petit peu. Voilà, donc je vais essayer de présenter maintenant brièvement et synthétiquement l'ouvrage en suivant le plan en fait, parce que finalement j'ai un peu hésité à chambouler la structure, mais je pense que c'est un petit peu l'objet ici à l'air essentiel de coller quand même pas mal au texte. Ça se fait pas toujours, je pense, mais en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je procède en général. Et dans le cas précis, comme je trouvais le plan à la fois clair, très efficace, très complet, il permet en fait de couvrir beaucoup, beaucoup de facettes de l'objet. J'ai finalement, banalement suivi le plan, donc je ne suis pas, de ce point de vue, trop cassé la tête. Alors, le premier chapitre, c'est un peu un chapitre, c'est classique, c'est un chapitre un peu socio-historique, on peut dire, mais apportant des données nouvelles. Et il n'est pas seulement socio-historique, parce qu'il va introduire aussi un certain nombre de résultats paradoxaux de l'enquête. Il permet donc de planter le décor, et en mettant en avant mon clé, qui est le décalage entre, au fond, ce qui a émergé dans l'espace public français en matière d'impôts au fil du temps. Et en particulier, évidemment, dans la période postérieure aux années 70, on va dire, et la réalité fiscale objective de la politique publique et du budget de l'État. Donc ça, c'est vraiment l'idée clé, avec en particulier une focalisation sur l'impôt sur le revenu, alors même que cet impôt sur le revenu, l'IRPP, le revenu des personnes physiques, finalement occupe une place très marginale dans le système fiscal français, dépassé même en termes de montant global perçu par la CSG, et en tout cas beaucoup moins important dans la structure fiscale que la TVA, la CSG aujourd'hui. Donc c'est assez frappant, c'est ce décalage qui est le point de départ fond du livre est tout à fait intéressant parce qu'il introduit à une réflexion sur la distorsion entre la construction des problèmes publics en matière économique et tout particulièrement ici en matière fiscale et la réalité des politiques publiques telles qu'on peut l'objectiver à l'aide de données quantitatives. Et je pense que cette tension, on va la retrouver à plusieurs moments de l'ouvrage. C'est un peu un fil conducteur. Enfin, et elle est très, très bien posée dans le premier chapitre. En fait, ce premier chapitre montre bien, je trouve, la persistance d'un écart entre donc, la construction du problème fiscal en France, les évolutions de longue durée, qui sont souvent des évolutions techniques peu visibles. Alors, c'est une métaphore qui est très, très présente dans le livre. C'est la métaphore de la visibilité, de l'invisibilité. Mais une grande partie, au fond, de l'enjeu fiscal est rendue invisible. Et on le voit très, très bien dans ce premier chapitre. Alors même que des éléments sont mis en visibilité. Alors l'impôt sur le revenu presque en continu. Et puis la TVA ponctuellement, de manière un petit peu chaotique. Et des taxes particulières qui vont émerger comme ça, qui vont arriver sur le devant de la scène, à la faveur d'un mouvement social, à la faveur d'une focalisation politico-médiatique. Mais alors qu'ils ne sont pas forcément... En tant que composante objective du budget de l'État, aussi important qu'on pourrait l'imaginer. Ça, je trouve que c'est vraiment très fort. Ça. Je cite Alexis, « La montée en puissance de l'État fiscal s'est accomplie en toute discrétion. » C'est aussi une métaphore qui est... Enfin, je ne sais pas si on peut dire métaphore, mais en tout cas, un élément qui revient beaucoup, c'est la question de l'attitude plus ou moins discrète par rapport à l'impôt. Je vais y revenir à propos des classes supérieures, parce que c'est un élément clé de l'attitude dans les classes supérieures par rapport à l'impôt. C'est le fait de batailler avec les services fiscaux à l'aide d'outils juridiques, mais de le faire de manière discrète, surtout. Je vais y revenir parce que ça me paraît vraiment un élément très, très important. Et c'est pas tout à fait un hasard si on trouve ce mot discret à plusieurs reprises, et notamment dans ce premier chapitre, pour décrire au fond la façon dont on fait bouger en fait, le système fiscal en France, qui est une façon discrète, largement invisible, par petites touches, par petites augmentations, dont on essaie de faire qu'elles passent le plus inaperçues possible, et le plus souvent elles passent réellement inaperçues. Et une partie des citoyens n'en ont même pas conscience, et ne simplement maîtrisent pas finalement la complexité juridico-institutionnelle de la fiscalité en France, qui est objectivement complexe, d'ailleurs, il faut le dire. C'est vrai qu'on a un système fiscal qui est particulièrement complexe. D'ailleurs, une des conclusions, là j'anticipe un peu, mais une des conclusions d'Alexis, c'est qu'il faudrait simplifier tout ça pour le rendre plus légitime d'une certaine manière, mais j'y reviendrai, parce que c'est un peu les conclusions plus normatives de l'ouvrage. Alors, cette question fiscale, elle était d'abord très peu visible avant les années 70, c'est-à-dire en particulier toute la période de l'après-deuxième guerre mondiale, elle est vraiment pas centrale du tout. Elle le redevient dans les années 70. Alors, il y a notamment, évidemment, dans le programme de la gauche, l'impôt sur la fortune, qui va être un élément clé. Mais comme je l'ai déjà dit, et là, on a des séries, en particulier dans le tableau 1. Alors, j'ai pas noté la page, donc du coup, je vais pas forcément le retrouver. Mais il y a le graphique 1 et le tableau 1 qui sont très parlants, qui sont issus d'exploitation de l'INATEC. En tout cas, le graphique 1. C'est le graphique 1 qui est issu de séries statistiques de l'INATEC. On voit très bien que c'est l'impôt sur le revenu qui, devant la TVA... tend à prédominer, en particulier dans les années 2010, hein, très clairement, la TVA étant assez nettement en dessous, et toutes les autres taxes, en particulier ici la CSG, étant reléguée dans l'invisibilité. Et ça, bon, voilà, j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant, compte tenu de ce que représentent en termes de recettes fiscales ces différents impôts. Là, voilà, le tableau 1 met en regard en fait la proportion d'apparition dans les JT, dans les journaux télévisés, donc la visibilisation médiatique et la répartition dans l'ensemble des prélèvements, en montrant des effets massifs de distorsion médiatique. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce premier chapitre, c'est qu'on va quand même se tourner vers les enquêtés, notamment avec le panel Ellipse, et on va donc en particulier regardez dans quelle mesure il maîtrise certains éléments de ce qu'est l'impôt, en particulier ce que sont les différents types d'impôts, donc le caractère proportionnel de l'impôt sur le revenu, est-ce que c'est connu, les caractéristiques de la CSG, et ainsi de suite. Où l'on voit... alors, moi, il me semble, il y a une chose qui n'est pas forcément dite, c'est un niveau quand même de compétence qui est pas nul, quoi, globalement, dans l'ensemble de l'échantillon des enquêtés, c'est plutôt, ils sont plutôt bons quand même globalement, il me semble. T'es peut-être pas d'accord avec ça, mais avec des différences assez notables, évidemment, selon les catégories, quoi. Donc là, tu vas insister surtout sur les différences de maîtrise, avec un degré de maîtrise qui est beaucoup plus faible chez les moins diplômés. Bon, on n'est pas surpris, on retrouve des phénomènes qu'on a pu observer à propos de la compétence culturelle, de la compétence politique. Au fond, on a ici un cas particulier, de compétence, qui est la compétence fiscale, même si tu ne fais pas forcément référence à la notion de compétence économique, mais bon, la compétence fiscale est très largement le produit d'une inégalité de capital culturel, une maîtrise inégale de l'objet même, du vocable aussi, parce que j'y reviendrai, mais je me demandais si les enquêtés comprenaient toujours progressif. Voilà, est-ce que le mot progressif est vraiment défini dans le questionnaire? Bon, ça, c'est des questions sur lesquelles je reviendrai, parce qu'elles renvoient à tout un débat qui n'est pas évoqué là, sur les questions de compétences dans les enquêtes, dans les enquêtes d'attitude notamment, et l'enjeu de mesurer quelque chose, quoi. Je renvoie au papier de Gaxi, plusieurs travaux de Gaxi d'ailleurs, plus largement, sur les questions de compétences politiques, mais qui me paraissaient ici pouvoir être mobilisés. Alors j'ai notamment observé justement des variations fortes sur les « ne sait pas ». C'est le « ne sait pas » qui est, on trouve une thématique qui était déjà dans l'opinion publique, n'existe pas. C'est une thématique fameuse, développée dans la sociologie politique française, donc par Daniel Gaxi, par Patrick Lehung, par tout un ensemble d'auteurs. Et ici, finalement, les résultats sont très convergents, c'est-à-dire en fonction du capital culturel. Les citoyens maîtrisent plus ou moins les termes du débat fiscal, quoi. Et ça, je pense, c'est un point très très important, parce qu'on a tendance quand même spontanément à leur prêter une bonne connaissance du système fiscal. Or, il s'avère que quand même un grand nombre d'entre eux se trompent ou ne savent pas sur un certain nombre de questions de quoi ils retournent. Et je trouve ça en soi important. Autre constat très important, donc c'est, encore une fois, c'est un chapitre socio-historique qui plante le décor. Donc ce chapitre évoque une tendance intéressante à la fragilisation progressive du consentement à l'impôt, qui illustrerait notamment des mouvements antifiscaux comme le mouvement des pigeons et d'autres mouvements, qui illustre aussi la montée des scandales fiscaux ou liés à la fiscalité. Je pense bien sûr à l'affaire Cahuzac, à la mise en visibilité de la fraude fiscale de manière générale, à la montée en puissance de la thématique des paradis fiscaux aussi. Tout ça qui contribuerait à une mise en crise, on pourrait dire, même si le terme n'est pas utilisé, mais je pense qu'il est assez adapté, une mise en crise du consentement à l'impôt, du rapport des citoyens à l'impôt en général. Et c'est vrai que là, les données brutes de l'enquête, je vais y revenir, ce sera une de mes questions, mais les données brutes de l'enquête montrent quand même un très très fort sentiment qu'il y a trop d'impôts en France, quoi. Quelles que soient les catégories. C'est ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on est vraiment dans une situation. Et donc, de ce point de vue, le livre préfigure aussi des éléments qui vont être présents au moment des Gilets jaunes, y compris dans le soutien qu'une grande partie de la population va apporter au mouvement. C'est le sentiment qu'au regard de ce que nous donne l'État, parce que c'est toujours évidemment relatif, on va y revenir, ou de ce qu'on pense que nous donne l'État, il y a trop d'impôts. Trop d'impôts et de charges en France. Quoi. Voilà, c'est une attitude qui va prendre une place, me semble-t-il, enfin qui prend une place, me semble-t-il, assez importante. En tout cas, les résultats sont assez frappants, de ce point de vue. J'y reviendrai, je donnerai quelques chiffres. Alors, le paradoxe, c'est que ceux qui rejettent le plus, au fond, l'impôt, sont ceux qui bénéficient le plus de la redistribution issue de la fiscalité, à savoir les classes populaires. Ça, c'est vraiment le cœur des résultats de l'enquête Ellipse, et on va voir que ça va même jusqu'à des impôts qui, a priori, les concernent moins directement. Je dis bien a priori, parce qu'on va voir qu'en réalité, ils les concernent de plus en plus pour diverses raisons, comme les impôts sur les successions, sur le patrimoine, etc. Le sentiment antifiscal est particulièrement élevé dans les classes populaires, et tout particulièrement les classes populaires rurales, tout particulièrement les classes populaires rurales les plus éloignées des services publics, enfin des choses qui ont éclaté, là, je veux dire, qui deviennent presque des trivialités depuis le moment des Gilets jaunes. Ça, c'est dommage pour ton bouquin, c'est qu'un certain nombre de résultats que tu as rendus visibles en septembre 2018 sont dans le débat public quelques jours après et deviennent des évidences, quoi. Donc, ça, c'est... Mais bon, voilà, ça veut pas dire que... Enfin, justement, ça illustre la qualité de l'enquête, je trouve. Enfin, là, pour le coup, Et le caractère, la possibilité d'anticiper, sinon de prévoir, parce que tu n'avais pas prévu les gilets jaunes quand même dans le livre. J'ai regardé, hein, est-ce qu'il annonce des choses, hein? Non, j'ai pas trouvé. En tout cas.
Je ferai une lecture de l'avant-dernière phrase du livre, juste pour frimer un peu.
J'étais sûr qu'il allait dire qu'il avait tout prévu. Donc, en particulier les classes populaires rurales, les autres clivages, les clivages politiques, évidemment, on rejette plus l'impôt à droite, sont plus classiques. Là, tu retrouves des résultats, au fond, qu'on retrouve depuis longtemps dans les travaux de sciences politiques sur l'impôt, notamment, et plus largement sur le rapport à l'État. Je pense qu'il y a une série de résultats qui sont quand même en cohérence avec des choses qu'on connaissait. La chose la plus nouvelle, c'est quand même ce clivage qui s'opère entre les catégories populaires. Plus du côté du rejet, plus clairement du côté du rejet, les classes supérieures. Donc voilà, c'était ma première question. D'ailleurs, je l'ai déjà largement anticipée, mais je vais la formuler vraiment sous forme de question. Donc ce qui frappe est le taux global très élevé du rejet de niveau de fiscalité en France. La France est... Alors je ne sais pas si tu donnes même le pourcentage global dans l'enquête... Mais en tout cas, il est vraiment très très élevé. Quoi. Quand on regarde les graphiques, tout à fait d'accord et plutôt d'accord, quelles que soient les catégories. Enfin, on a vraiment des pourcentages énormes. Quoi. Si on prend les classes d'âge, pour les moins de 29 ans, on est presque à 50% de tout à fait d'accord. La France est un pays où l'on paye trop de charges, trop d'impôts. Ça monte pour les 40-49 ans jusqu'à plus de 50%. Ça descend à peine pour les plus de 60 ans. C'est à peu près similaire, c'est autour de 50%. Et pour les plutôt d'accord, on est autour de 30 ou 40% pour toutes les catégories.
Ce qui fait que
c'est énorme.
Proche de 80% en fait.
C'est énorme. 75, voilà,
3 quarts,
c'est énorme en fait. C'est un rejet. À partir de, en tout cas, cet énoncé-là, hein, on y reviendra parce que voilà, c'est le degré d'adhésion à l'énoncé. La France est un pays où l'on paye trop de charges et trop d'impôts que je trouve énorme. Voilà. Je me suis demandé si tu avais un peu regardé, en tout cas, elles n'apparaissent pas dans le livre. Des séries temporelles autres que celles que tu donnes sur les médias, que je trouve vraiment très éclairantes sur la visibilisation, mais je trouve que la démarche aurait pu être transposée, y compris avec des données peut-être d'enquête d'attitude ou d'opinion sur des questions similaires. Alors évidemment, il n'y a pas les mêmes questions que l'enquête Ellipse en 70 ou dans les différentes enquêtes. Je pense à des enquêtes du CEVIPOF, je pense à des enquêtes, les World Value Survey, l'ESS, etc. Les enquêtes où on trouve quand même des questions sur les services publics et parfois sur la fiscalité. Aussi. On trouve des questions parfois sur l'impôt. Et donc, je me demandais si tu avais essayé de regarder quand même dans toute cette littérature très inégale, hein, d'enquête, d'attitude, de valeur, etc., comment les choses avaient évolué finement, j'allais dire. Et je vais poser beaucoup de questions là-dessus, je pense, sur le caractère fin des évolutions cycliques aussi, des évolutions en matière d'attitude face à l'impôt depuis les années 70-80. Bon, peut-être qu'il n'y a pas de questions similaires, peut-être que c'est impossible de comparer. Enfin, voilà, il y a des réponses qui viennent spontanément, mais voilà, elles ne me satisfont pas totalement. C'est-à-dire, je pense que c'est pas mal quand même de regarder ce que nous dit au fond toute cette littérature, y compris en allant jusqu'au baromètre du CEVIPOF. Enfin, voilà, il y a toute une série de données dans lesquelles on trouve des données sur la fiscalité qui ne sont pas si éloignées que ça. Les questions ne sont pas formulées de la même façon. Enfin, on peut discuter, hein, mais il y a aussi les eurobaromètres. Alors, dans les eurobaromètres, je n'ai pas souvenir de questions sur l'impôt, à proprement parler. Mais il y a des questions sur la confiance dans diverses institutions. Il faudrait regarder s'il n'y a pas eu des suppléments. Bon, voilà, c'était ma première question. La suite de l'ouvrage est structurée un peu sur le modèle de la distinction. Tu vas confirmer ça ou pas ? On va voir, c'est-à-dire avec trois grands groupes, tu as divisé, alors pas exactement avec les mêmes définitions, parce que les gros agriculteurs sont, si je ne me trompe pas, dans les classes supérieures. Voilà, tu as suivi d'ailleurs une pratique qui était celle que vous avez adoptée, je crois, dans les classes sociales, oui, en Europe, des découpages en trois, mais qui est quand même assez classique dans la sociologie française, parce que justement, dans la distinction, il y a quand même trois grandes classes. Les classes dominantes, les classes moyennes et les classes... Et en plus, je trouve, pour aller dans le sens de cette analogie, tu vas essayer de caractériser par une formule génératrice, en quelque sorte, de chaque groupe, de chaque classe, à laquelle tu vas donner le titre, mais qui va te permettre d'unifier, ce qui n'est pas vraiment évident, chacune des grandes classes. Acceptation négociée, un peu à la façon dont Bourdieu va formuler différentes formules de l'éthos des différentes catégories. bonne volonté culturelle est évidemment le plus connu de ces caractérisations un peu idéales typiques. Alors ça, je trouve que tu fais ça vraiment, tu excelles à ça, vraiment, c'est, tu trouves vraiment la bonne formule, ce qui n'est pas évident, parce qu'on a des groupes quand même assez divers, et quand on regarde les entretiens, bon, il y a des polarisations, il y a des tensions à l'intérieur de chaque groupe, on va y revenir, je vais en illustrer, en montrer quelques-unes, et tu arrives quand même à trouver une formule, et c'est vrai que c'est difficile de en tout cas facilement, d'objecter à cette formule qui a quand même, qui ramasse assez bien. Et donc, je les reprendrai, bien sûr, parce que tu les formules en plus comme titre. Et donc, tu leur donnes une place assez importante. Symbole d'injustice pour les classes populaires. Acceptation négociée dans les classes moyennes. Et transformer la contrainte en choix. Alors ça aussi, ça m'a évidemment aiguillé vers à la distinction, parce que tu le cites d'ailleurs. Hein, tu cites la distinction, bien sûr. Mais bon, c'est faire de nécessité vertu. Alors ici, pour les classes supérieures, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Pour l'impôt, faire de nécessité vertu, c'est une attitude des classes dominantes. En matière de goût dans la distinction, c'est une attitude des classes populaires. Bon. Tu me diras si tu avais ça en tête, si c'était tout à fait clair dans ton esprit, ou si c'est l'inconscient et l'habitus qui ont frappé. Alors, c'est quand même inversé, parce que tu commences par les classes populaires. Parce qu'on sait que voilà, dans la distinction... grand débat, c'est porté sur la place relative accordée aux différents groupes. Puis il y a quand même les indépendants que tu traites à part, aussi, évidemment. Donc ça, c'est les chapitres 2 à 5, et donc ils sont consacrés aux classes populaires. Je vais revenir sur leur caractérisation générale, leur définition et leur caractérisation quant à leur rapport à l'impôt et aux services publics. Les classes moyennes, dont on va voir qu'elles sont en particulier écartelées, entre autres, entre privé et public, les classes supérieures, puis les indépendants, qui sont en quelque sorte extraits à la fois des classes moyennes et des classes supérieures, comme ayant des propriétés spécifiques liées à la composition du capital, à la structure horizontale de l'espace social, pour reprendre le schéma de la distinction. Ensuite, tu vas te focaliser sur les mobilisations et les manifestations, versant le plus négatif, on pourrait dire, ou le plus hostile, le plus éloigné de l'impôt, c'est la contestation plus ou moins directe de l'impôt. Et puis ensuite, un autre aspect, un autre rapport subtil, qui est la transgression fiscale, y compris la fraude. Ça, c'est le chapitre 7. Donc, on voit un balancement entre deux attitudes, une attitude d'hostilité frontale et une attitude qui contourne et qui joue, en quelque sorte, avec l'impôt. Et où on retrouve ici, évidemment, des thématiques que tu as développées dans des travaux antérieurs, où tu capitalises sur toutes les recherches que tu avais déjà faites sur le sujet. Et puis le chapitre 8, que j'ai beaucoup aimé, permet de politiser un peu plus la question en élargissant, en quelque sorte, l'enjeu fiscal à celui du rapport à l'État et aux services publics, en introduisant la politique publique et le rôle de l'État dans l'évolution vers le moindre consentement, la moindre acceptation de l'impôt. Ça, je pense que c'est une thèse extrêmement forte. Hein. C'est évidemment les politiques publiques qui, par divers canaux, rendre l'impôt illégitime aujourd'hui, tout en intégrant la complexité multidimensionnelle avec une ACM du rapport à l'impôt et aux services publics. Et toujours justement en balançant, c'est ce que tu fais beaucoup dans ce chapitre 8, j'y reviendrai, les deux côtés, c'est-à-dire l'impôt prélèvement et le rapport plus ou moins tendu qu'on peut avoir avec le prélèvement fiscal d'un côté, et puis l'impôt qui, par les services publics qui permet de procurer, apporte des choses, mais qu'on ne perçoit pas forcément. Une grande partie de l'enjeu étant que, justement, on ne perçoit pas tout, et que l'État nous fait percevoir des choses qui ne sont pas exactement ce qu'en fait il fait avec les impôts. Alors ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc je commence par les classes populaires, caractérisées donc par une défiance généralisée envers l'impôt, liée fondamentalement à un sentiment d'injustice dans l'accès aux services publics. Et tu conclus d'ailleurs, de manière assez intéressante, j'ai trouvé, tu ne développes pas ce point, mais que finalement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, personne n'en était vraiment conscient de ce phénomène. Alors est-ce qu'il existait vraiment aussi? Ça, c'est la question que je te pose, de manière aussi nette, c'est-à-dire est-ce que les classes populaires étaient à ce point caractérisées par le sentiment d'injustice et donc du même coup une forme d'hostilité à l'impôt? Mais tu dis que finalement, récemment, c'est rendu plus visible par le fait que le Front National incarne cette posture dans l'espace politique. C'est évidemment une thèse assez forte. Alors ici, tu montres, je trouve que bon, là, le cœur du chapitre porte là-dessus, qu'avant d'être une hostilité théorique, bien sûr, et donc là, il ne faut pas prendre au pied de la lettre des attitudes dans des questionnaires qui ont été formulées par des chercheurs. Enfin, c'est à travers ton enquête de terrain, notamment ton enquête au guichet, que tu montres bien que c'est le rapport très concret aux agents des guichets qui va déterminer le rapport à l'impôt, en fait, pour une large part, et à l'État, hein, plus largement. C'est dans ces interactions plus ou moins malheureuses au guichet que se fabriquent, au fond, ces dispositions et ce sentiment d'incompréhension, de distance et, du même coup, de sous-rejet à la fois de l'impôt et plus largement, d'ailleurs, de l'État. Donc c'est un rapport pratique. Tu insistes beaucoup là-dessus. Alors, c'est intéressant, parce que dans la partie sur les classes populaires, tu insistes beaucoup sur la dimension pratique et concrète, hein, évidemment, du rapport à l'impôt. Donc un sentiment aussi d'incompréhension et de malveillance de l'État qui ressortirait de ces interactions, avec l'idée que voilà, c'est dans ces interactions que se forge, en fait, l'essentiel du rapport à l'État. Mais avec un point très très important, et toute la fin du chapitre va déplacer l'analyse vers ça, et qui me paraît vraiment apporter un éclairage tout à fait nouveau sur tout ce phénomène, c'est l'importance des taxes locales, en particulier l'importance de la fiscalité locale, qui est finalement ce qui est d'une certaine manière le plus injuste au fond, mais ça, passons sur les jugements normatifs, mais qui de fait heurte des catégories populaires qui sont en accession fragile, on va dire, à la propriété. Et donc c'est en fait un autre versant du piège de l'accès à la propriété qu'avait décrit Bourdieu, par exemple, dans les travaux sur le marché immobilier. C'est un piège parce qu'on ne pourra pas tout rembourser, qu'on aura des problèmes, l'appartement, il y aura des fuites d'eau, etc., qu'on ne pourra pas rembourser. Enfin, vous vous souvenez toutes ces analyses de la misère petite bourgeoise et de l'accès des classes populaires au logement. Mais ici, on voit un autre aspect qui est ça fait tomber des impôts en plus et très lourd. Et du coup, ça va dégrader le rapport à l'État en général, à travers les collectivités. Et ça, je pense que c'est vraiment un point très, 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 très riche. Alors, pour illustrer le fait qu'il y a des entretiens et que c'est quand même très vivant, je vais prendre cet entretien donc, avec une femme d'une quarantaine d'années, cheveux longs ébouriffés, qui se présente au centre des impôts. Elle a vécu dans le Pas-de-Calais. Elle a pris un emploi de gardienne d'immeuble en région parisienne. Elle n'est pas imposable. Elle a perçu un chèque de 1 500 € au titre de la prime prévue pour les chômeurs ayant pris un emploi à plus de 200 km de leur domicile, mais elle a ensuite reçu une notification de l'administration lui annonçant qu'elle n'y avait pas droit, car elle a commencé à travailler un mois avant la date marquant l'ouverture du dispositif. On me demande de rembourser la prime. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai une attestation de mon employeur qui prouve que j'y ai droit. La contrôleuse, il va falloir que je vérifie, car je ne sais pas si on tient compte de la période d'essai. La contribuable, sur un ton agressif, à la télé, on les voit, les gros bonnets, mais c'est jamais eux qui payent. C'est les petites connes dans mon genre. C'est les gros bonnets qui s'engraissent. Et qui va payer? C'est la petite conne. Mais la loi, elle est faite pour tout le monde, et je ne vois pas pourquoi les petits n'y auraient pas droit. Si j'avais eu du boulot chez moi, dans le Pas-de-Calais, je ne serais pas venu en région parisienne, car c'est une région qui me dégoûte. Voilà, je passe à la suite, mais c'est très fort. Enfin, ces extraits d'entretien, il y a un peu les gilets jaunes, déjà, hein, quand même. On les entend, déjà, un peu. Hein. Les ronds-points, enfin, voilà, toute cette parole qui s'est libérée et qui nourrit aujourd'hui l'actualité, quoi. Voilà, ça, c'était le chapitre... Bon, désolé, je vais très, très vite, je résume, il y a des choses que j'oublie. Hein. Le chapitre 3... sur les classes moyennes est très important parce que, comme l'ont montré les travaux de Nicolas Delalande en particulier, la notion même de classe moyenne, elle est associée en fait historiquement en France à la fiscalité et à l'idée que voilà, c'est les classes moyennes, c'est celles qui finalement se trouvent en quelque sorte dans un étau et condamnées finalement à payer en quelque sorte ce que les classes populaires ne paient pas et ce que les classes supérieures ne paient pas non plus ou arrivent à éviter. Les dindons de la farce, quoi, un petit peu historiquement. Et la notion même de classe moyenne, le syntagme classe moyenne, est beaucoup utilisé dans des formules qui, justement, consistent à rejeter l'impôt. Voilà, ça, c'est un point de départ. Mais tu n'en montres pas moins que les classes moyennes, elles sont du côté de l'acceptation, quand même, relativement. Alors c'est relatif, parce qu'on a quand même vu, globalement, un rejet assez massif, hein, toutes catégories confondues. Donc je pense que les divisions que tu fais sont un petit peu fortes par rapport aux données, quoi. Il y a un petit risque voilà, d'aller trop loin du côté de l'acceptation pour les classes moyennes, qui sont quand même aussi, à mon sens, d'après les données, hein, un peu quand même du côté, enfin, même assez fortement du côté du rejet. Ils acceptent le principe, en fait. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que quand on leur demande, acceptez-vous le principe de l'impôt, quel qu'il soit, l'impôt progressif, etc., ils vont dire oui, il faut l'impôt, enfin, c'est important, les services publics en dépendent. Enfin, ils ont un discours relativement universaliste, et sans doute, enfin, peut-être moins cynique, on y reviendra, et moins hypocrite que celui qu'on va pouvoir trouver aussi dans les classes supérieures. Mais ils ont quand même le sentiment d'être les dindons de la farce, quoi, et d'être maltraités, démunis, surtout, face à l'administration. Ils ont un rapport contractuel à l'impôt. Donc ils vont... alors ils sont moins au guichet que les classes populaires, mais ils sont pas non plus dotés de ressources juridiques comme dans les classes supérieures, quoi. C'est un peu ça leur problème, en fait. C'est qu'ils sont dans l'entre-deux et qu'ils n'ont pas... Ils ont ni l'un ni l'autre, quoi. Ni le recours direct, enfin, qui n'est pas vraiment une ressource, mais la possibilité, enfin, ils ne font pas, voilà, ce qu'on fait dans les, ils font moins, en tout cas, ce qu'on fait dans les classes populaires, et en même temps, alors, ça donne des interactions. Je vais en prendre une, mais peut-être dans un instant, tout de suite. Oui, c'est ça. Alors, j'ai trouvé ce qui était très intéressant, c'était le rapport au dispositif de défiscalisation. C'est-à-dire, ils vont aller quand même de ce côté-là. Dans les classes moyennes, on va quand même du côté des dispositifs de fiscalisation, ce qui n'est pas présent, en tout cas pas trop présent dans les classes populaires, mais on ne le fait pas avec la dextérité, avec les ressources qu'on a dans les classes supérieures. Donc, dans beaucoup de cas, on se plante ou on n'est pas très à l'aise. Donc, il y a un cas, voilà, que j'ai pris là, un exemple qui est longuement développé dans un entretien, page 103, et c'est assez terrible, quoi, encore comme histoire. Donc là, c'est installé d'abord comme orthophoniste en libéral, puis comme salarié d'un centre médico-psychopédagogique où elle était déléguée syndicale CFDT. Elle est aujourd'hui à la retraite, tout comme son mari, qui était représentant de commerce d'une petite entreprise électroménager. Bon, montez le décor d'une classe moyenne, à la fois indépendante et salariée, si on regarde le ménage. À la maison, c'est elle qui règle les problèmes administratifs et les comptes, s'occupe des impôts. Elle raconte avoir bénéficié d'une réduction de 3000 euros pour les intérêts d'emprunt au moment de l'achat de la maison, puis d'une nouvelle réduction lorsqu'elle a fait refaire les fenêtres et les volets de la maison. Et quelques années plus tard, s'est lancée dans une autre démarche de plus grande ampleur. En 2007, mon mari avait déjà en tête de défiscaliser, alors que moi, je voulais surtout que nos enfants puissent se loger dans de bonnes conditions. C'est intéressant. Les rapports de genre sont très présents dans le livre, et notamment cette division du travail qui varie selon les catégories sociales, le rôle de la femme étant plus important dans les catégories populaires, hein, pour remplir la déclaration et en matière fiscale, que dans les catégories supérieures. Et ici, on est dans les classes moyennes, et c'est l'homme qui veut faire de la défiscalisation. Et la femme, elle pense à ses enfants. Bon, voilà, c'est des polarisations qu'on retrouve beaucoup. Enfin, ce qui me plaisait, alors elle dit, on en a parlé à notre conseillère bancaire, donc la conseillère bancaire, donc c'est pas non plus très, très haut, qui nous a orienté vers une autre personne qui vendait des appartements dans le cadre de la défiscalisation. Ce qui me plaisait, c'est que c'était donnant-donnant. C'est-à-dire, ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'il n'y avait pas assez de logements, que ça permettait de louer des logements à bas prix. On a été naïfs. Il nous a dit que c'était un appartement bien situé dans une ville en expansion où allaient se créer des écoles, des commerces, un très bel endroit. On était en toute confiance. Donc ils achètent un appartement pour pouvoir voilà, assurer l'avenir, etc., dans une logique de défiscalisation, au fond, pas bien maîtrisée, parce que ils se font arnaquer, en fait. Voilà. On était en toute confiance, tellement en confiance qu'on ne s'est pas renseigné sur les prix des logements sur place. On a acheté ça sur plan 145 000 euros sans connaître les prix de la ville. À la fin des travaux, on a été voir sur place et on s'est rendu compte de l'entourloupe. C'est au bord d'une route qui fait un bruit infernal, mais c'était trop tard. Aujourd'hui, il est estimé à 55 000 euros. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la misère petite bourgeoise, mais pas dans l'appartement dans lequel on vit, mais c'est l'investissement qu'on a fait en croyant qu'on était voilà, dans le train de ceux qui vont bénéficier de la défiscalisation et de l'accès à l'immobilier, qui est au passage lié à la financiarisation, enfin tout un ensemble de processus de transformation de l'économie aujourd'hui. Et c'était un piège. Donc il y a des rapports heureux et moins heureux voilà, dans les classes moyennes. C'est ça qui m'a frappé. Et en fonction... alors on y reviendra pour les indépendants, bien sûr, du niveau de revenus, tout simplement, évidemment. C'est très polarisé. Les classes moyennes sont écartelées. Hein, c'est beaucoup dit aujourd'hui dans les travaux de stratification sociale. Elles sont toutes sauf unifiées. Et le rapport est beaucoup plus tâtonnant. Donc même si on a un rapport contractualiste... beaucoup plus que dans les classes populaires, on se plante sur les contrats. Quoi. On se fait un peu avoir. Enfin, on risque, en tout cas. Ça, si je résume. Oui, j'ai l'impression de caricaturer pas mal. Hein, mais voilà. Le chapitre 4 donc, est centré sur les classes supérieures. Et là, pour le coup, fait directement écho, comme je le disais tout à l'heure, à des formulations de Pierre Bourdieu dans La Distinction, puisqu'il est intitulé « Transformer la contrainte en choix, faire de nécessité vertu », on pourrait dire. C'est une libre adaptation, je pense, et d'autant que, comme je le disais tout à l'heure... Bourdieu l'utilisait plutôt pour le goût de nécessité. Hein. Le goût de nécessité, c'était les classes populaires. Là, c'est à l'opposé. C'est l'impôt de nécessité, on va dire. Enfin, voilà, on pourrait multiplier les jeux de mots et les formulations. Alors, ce que j'ai bien aimé là, c'est que comme dans chaque chapitre, tu dresses un portrait nuancé, c'est-à-dire que tu insistes sur les tensions internes au groupe. Enfin, on voit que tu le penses en termes d'espace et pas en termes de bloc ou d'appareil ou d'unité donnée, enfin, évidemment. Donc une vision relationnelle des classes, même si tu utilises et à dessein et de manière complètement consciente la terminologie des classes qui est puissante et pertinente. Et donc là, il faut, donc tu rappelles les différences, mais tu montres que finalement, par-delà ces différences, il y a quand même ce point commun de la mise à distance de la nécessité. Quoi. On va, au fond, proclamer qu'on accepte l'impôt, et puis on va tout faire pour le réduire. Quoi. Voilà, c'est ça, en gros, l'attitude. Et ça, moi, je trouve ça intéressant, parce qu'on mélange un aspect un peu discursif et en apparence de l'ordre des valeurs, une attitude telle qu'on peut la mesurer justement dans des questions d'attitude, et puis la réalité concrète des comportements, qui, avec des différences, hein, notamment des différences publiques-privées, mais qui va être de... Non, on va essayer de payer le moins d'impôts possible, et puis on va aussi se focaliser sur certains impôts qu'on trouve particulièrement injustes, assez, notamment dans le pôle économique, hein, des classes supérieures, où on va particulièrement contester certains types d'impôts qu'on va juger particulièrement, tout en étant sur le fond prompt à afficher une certaine acceptation générale du principe de l'impôt, en tout cas dans l'enquête et en tout cas face à l'enquêteur. Parce que là, voilà, c'est un peu ça, ma question, tu as compris, un peu sous-jacente, c'est stratégie de présentation de soi, forme de cynisme dans certains cas. Enfin, on peut se demander dans quelle mesure ici le discours est vraiment à prendre à sa valeur faciale, quelle qu'en soit la manifestation ou les conditions de production, que ce soit un entretien ou que ce soit les réponses à un questionnaire. Enfin, là, je pense qu'il y a vraiment une analyse, une discussion en tout cas à avoir sur ce que signifie vraiment l'adhésion à l'impôt, quoi, dans les classes supérieures. Parce que c'est vrai que, voilà, si on prend les réponses à leur valeur faciale, on accepte plus l'impôt dans les classes supérieures que dans les classes populaires. Voilà, ça, c'est le résultat important de l'enquête. Cette mise à distance de la nécessité prend des formes diverses que tu illustres à chaque fois de manière précise. L'expatriation en est un, c'est plus riche, bien sûr, et très médiatisé, bien sûr. Avec la fuite devant les impôts sur le patrimoine, etc., l'ISF, bien sûr, mais c'est aussi le choix des conditions d'imposition, des stratégies subtiles, là, gérées vraiment prises en charge par les hommes, avec une forme de proto-professionnalisation fiscaliste dans ces catégories, et qui, de toute façon, comme ils ont les moyens, peut déboucher sur simplement l'achat de conseils et donc de prestations juridiques qui vont permettre de défiscaliser rationnellement, et qui est quand même l'une des pratiques les plus courantes que tu décris. Donc propension à défiscaliser, hein, clairement, et tu en étudies les formes, en donnant y compris des tri-croisés très intéressants qui rapprochent la propension à défiscaliser du rapport subjectif affiché à l'impôt. Je trouvais que c'est très intéressant. En particulier aussi, tu montres que la propension à défiscaliser est fortement liée à l'ancrage dans les classes supérieures, en prenant d'ailleurs comme modèle un peu d'analyse des schémas à la Michelin, où on était plus ou moins intégré à la classe ouvrière, selon que le conjoint était de la classe ouvrière, les parents de la classe ouvrière, etc. Ici, plus on est intégré dans les classes supérieures, et plus, en gros, on a une propension à adopter des stratégies de défiscalisation poussées, si j'ai bien suivi. Là aussi, tu as des extraits d'entretiens très significatifs de stratégies qui, là aussi, peuvent être plus ou moins réussies, et qui vont nourrir l'analyse des pratiques réelles. Alors bon, c'est pas pour caricaturer les oppositions, mais je vais prendre l'exemple, page 124, du professionnel de la défiscalisation, un de ceux qui apparaissent comme des quasi-professionnels. Au niveau des impôts sur les particuliers, il y a beaucoup de choses qui permettent d'optimiser fiscalement. Moi, j'ai déjà fait 2 investissements immobiliers en profitant de dispositifs de défiscalisation et en faisant attention que ce soit dans une zone où ça peut être loué. On voit par rapport au précédent une attitude légèrement plus rationnelle, entre guillemets. Hein. Je n'ai pas fait ça dans un complexe de 500 logements qui se construit alors qu'il y a 1000 habitants dans le village d'à côté. Donc il fait un peu de stats, quoi. Il fait un peu de démographie. Il faut quand même regarder. J'ai pris des conseils auprès de mon banquier. Donc là, c'est plus le conseiller bancaire, c'est le banquier, déjà. On n'emploie pas le même terme. Et auprès d'un ami qui est gestionnaire de biens. Bon, le capital social, là, on permet de... On n'a pas forcément besoin de dépenser de l'argent auprès d'un conseiller juridique, parce qu'il suffit d'en parler à table, bon, pas au milieu du repas, quoi. Il faut trouver le bon moment, je pense. Là, voilà, d'ailleurs, ça serait un... Est-ce qu'on parle vraiment de questions fiscales dans les repas? C'est une question que je me suis posée. Mais... J'ai pris des... Ouais, c'est ça. Il doit y avoir des moments, quoi. Peut-être que... Ouais, c'est ça. Ou quand les femmes sont allées parler d'autres choses. Je sais pas. Enfin, là, il faudrait... Voilà, il y a des observations à faire. J'ai pris des conseils auprès de mon banquier, auprès d'un ami qui est gestionnaire... Oui, j'ai dit. C'est quand même un investissement, donc ça ne se décide pas à la légère. Je n'ai jamais eu de surprise en matière de défiscalisation. Voilà. Là, on sent... sachant que donc c'est un directeur financier d'une entreprise de couture qui est un peu ambivalent. Enfin, il est assez intéressant, lui. Hein. Il a des caractéristiques. Alors, t'as pas du tout creusé le fil biographique sur tes enquêtés, ou pas trop. Parfois, ça aurait pu être des portraits, quoi, sur des pages plus longues et plus homogènes. Là, tu as plutôt utilisé les extraits d'entretien comme illustration des traits idéal typiques que tu mets en avant, ce qui est assez pertinent, je pense, parce que c'est conforme à la logique démonstrative, argumentative du livre. Et assez éclairant, donc voilà, ça m'a paru un choix judicieux malgré tout. Enfin, malgré tout, au sens où tu aurais pu choisir autre chose, mais l'originalité donc du chapitre, c'est aussi de combiner cette analyse des stratégies subtiles, donc visant à alléger la contrainte fiscale, c'est quand même des stratégies les plus fréquentes et structurantes, à une analyse donc des attitudes affichées en matière de justice fiscale, où ces mêmes membres des classes populaires revendiquent une certaine moralité, puisqu'elles se déclarent plus favorables à l'impôt que les autres, avec cependant des différences publiques-privées subtiles. Par exemple, du côté du public, on va se déclarer tout à fait, évidemment, l'acceptation de l'impôt est plus forte, disons, voilà, globalement, mais en même temps, on est très armé pour tenter d'utiliser tous les ressorts juridiques, soi-même en tout cas, pour le faire. Il y a un peu plus de distance du côté du privé, si j'ai bien suivi. Ce qui est un peu surprenant par rapport à l'idée de défiscalisation comme étant une pratique peut-être plus répandue du côté des catégories économiquement dominantes. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une petite tension, un paradoxe, là, enfin, un truc qui n'était pas complètement... Enfin, que moi, je n'ai pas réussi à complètement lever. Je n'ai pas complètement compris pourquoi on pouvait dire que c'était du côté du public qu'on était le plus tatillon sur qu'on allait regarder, voilà. Si on ne pouvait pas gratter quelques euros. En tout cas, c'est très intéressant de nuancer, évidemment, au sein des classes supérieures, et en particulier en fonction de cette variable public-privée que, avec Cédric Hugré, Étienne Pénissa, vous avez étudié dans le contexte européen. Et je pense que c'est très, très bien de faire le lien aussi et de montrer que c'est une variable qui a un sens, tu lui donnes sens, en tout cas, sur tes données. Tu montres qu'elle est au principe de clivage, pas aussi fort et aussi massif que gens du privé, gens du public, une espèce de polarisation, mais elle intervient quand même et elle est donc quand même pertinente parce qu'elle est évidemment... comme vous l'avez montré dans le papier et dans des travaux, pas du tout présente dans les institutions statistiques de la plupart des pays, pas présente dans les institutions statistiques européennes. Enfin, voilà, cette opposition publique-privée, elle est assez française finalement, hein, comme quelque chose de très structurant, y compris du rapport à l'État et à l'impôt. Et donc c'était quand même heureux que tu le montres avec le cas de l'impôt et des services publics. Enfin, si cette variable ne jouait pas là, ça veut dire que finalement... elle n'est peut-être pas si utile. Donc voilà, c'est quand même quelque part rassurant. Alors j'en profite pour poser donc une deuxième question qui peut apparaître assez classique. C'est au fond le statut à donner à des réponses à des questions d'attitude, ici. Est-ce qu'elles ne doivent pas ce qu'elles sont, ce qu'elles apparaissent à des stratégies conscientes ou inconscientes de présentation de soi? De biais de conformité sociale, enfin voilà, toute une série d'éléments qu'on pourrait mobiliser et qui font que les différences qu'on va observer entre les différents groupes sociaux sont compliquées à interpréter, je pense. Si on s'en tenait, en tout cas, heureusement tu ne le fais pas, mais aux seules questions d'attitude, quoi. Et je pense que le fait que tu corrige en quelque sorte l'impression qu'on pourrait avoir par des questions d'attitude, par de l'observation ethnographique et une vision beaucoup plus réaliste et directe qui est donnée des stratégies de défiscalisation, des pratiques au guichet. Dans le cas des cas supérieurs, ce n'est pas vraiment au guichet, mais des pratiques juridiques, etc., et des pratiques relatives à l'impôt, corrige un peu. C'est-à-dire on a un peu l'impression d'une forme de cynisme ou d'hypocrisie, en fait, voilà, pour être rapide et brutal. C'est-à-dire, oui, bien sûr, il faut l'impôt. Oui, oui. Ah oui, bien sûr. Sur un mode très général, on va évidemment adhérer à l'impôt. Et puis quand il s'agit de réduire, y compris par des moyens frauduleux, on y viendra dans certains cas, on s'engouffrera dans la brèche, quoi. Donc, je pense qu'il y a une espèce de... Et là, il y a des formes de dispositions clivées, d'habitus clivées aussi. Enfin, habitus, je ne sais pas, mais en tout cas, de d'attitude clivée, voilà, on pourrait dire. Et donc, c'était une question, mais j'ai déjà anticipé, dans la lignée de l'opinion publique n'existe pas, Gaxi Le Hing, enfin, comment interpréter des réponses, quoi, sur des questions relatives à... Je sais que moi, j'avais travaillé sur l'European Social Survey, et c'est quand même très compliqué d'interpréter les réponses aux questions sur l'État, sur la justice Alors fiscal, il n'y a pas forcément, mais en tout cas sur les inégalités, sur le rôle de l'État pour réduire les inégalités, sur les privatisations. Enfin, il y a beaucoup de questions sur lesquelles l'interprétation est quand même complexe, quoi. On se demande parfois ce qui a été vraiment compris par l'enquêté. Il y a des bizarreries dans les... Donc voilà, c'est pas pour dire qu'il y a forcément des biais, hein, mais c'est pour dire que tu donnes déjà des éléments pour aller un petit peu au-delà de l'interprétation que tu donnes toi-même de ces questions-là. Et ça met un peu en tension l'idée que il y a vraiment acceptation, quoi, du côté... Enfin, le terme acceptation me paraît fort. Tu l'utilises pour les classes moyennes. Et on va trouver ça, d'une certaine manière, encore plus affirmé. Même si, quand même, transformer la contrainte en choix, la contrainte, on l'accepte pas complètement. Enfin, on a la capacité à la transformer. Enfin, voilà, c'est pas une acceptation, quoi. T'as pas utilisé le terme acceptation pour les classes supérieures, ce qui est assez, à mon avis, pertinent. En tout cas, mon idée, c'est que les classes supérieures ont une capacité aussi à repérer la norme sociale. Enfin, il y a une norme fiscale comme il y a une norme civique, quoi. Il faut dire qu'on va voter. Enfin, voilà, il faut aller voter aussi. Enfin, voilà, elle est plus ou moins partagée. Et dans un questionnaire, on saisit aussi pour une part l'adhésion à une norme de façade, quoi. Donc s'agissant des indépendants, j'en suis donc au chapitre 5, je vais accélérer un peu, c'est la notion de ressentiment qui est mobilisée. Elle permet de décrire de façon synthétique le rapport du groupe à l'impôt, mais c'est un groupe qui est très clivé, en particulier entre les petits et les gros. Il reste néanmoins le bastion du rejet de l'impôt, clairement, c'est-à-dire qu'il y a une propension nettement plus forte des indépendants à rejeter l'impôt, et qui s'accompagne d'un phénomène que tu pointes en conclusion, si je me souviens bien du chapitre, qui est que les valeurs du groupe, alors même qu'il a historiquement décliné, démographiquement en tout cas, stabilisé dans une période plus récente sans doute, mais ces valeurs se sont très largement diffusées en fait, et en particulier au salariat, notamment sous l'effet de la fragilisation des valeurs associées à la société salariale, au fait que pour une part, les salariés sont amenés à adopter des comportements, mais parfois aussi des formes juridiques sur une partie de leur activité. Et puis il y a quand même la question de la propriété immobilière, d'attitudes qui sont traditionnellement celles des indépendants. C'est-à-dire, en fait, si on te suit, les salariés sont devenus un peu des indépendants du point de vue de leur attitude par rapport à l'impôt. Et ça, c'était pas donné d'avance. C'est-à-dire que je me souviens de tout un discours politique un peu simpliste qui disait voilà, 90% de salariés... En gros, voilà, le prolétariat est déjà au pouvoir potentiellement. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le salariat est extrêmement diversifié, etc. Et les valeurs des indépendants peuvent avoir largement percolé dans de larges fractions du salariat, et même à des niveaux de capital culturel et économique relativement bas, quoi. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Donc, pour revenir aux indépendants, ici, alors, il y a la question des charges sociales qui est évidemment centrale. C'est un rapport qui est vraiment centré sur la question des charges sociales. C'est la question du RSI aussi, c'est-à-dire que les dispositifs qui ont été mis en place, qui étaient censés harmoniser en quelque sorte ou tendre vers une harmonisation des conditions fiscales des indépendants et des autres, ont plutôt eu un effet négatif, avec des difficultés informatiques, avec au fond l'objectivation d'une... mis sous contrôle, en quelque sorte, des indépendants. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont vécu. Là aussi, tu le montres avec des extraits. Je vais en citer un pour être un peu plus concret, parce que ça commence à vite devenir un peu trop abstrait. Voilà le genre de mésaventure qui arrive. Donc, c'est une femme qui se présente au guichet du RSI comme thérapeute manuelle, car elle estime avoir été classée à tort en profession libérale. Et on voit que c'est une interaction qui, vous allez voir, est assez ambiguë. Elle réclame un traitement réservé au personnel de soins. Elle vient pour la quatrième fois clarifier sa situation. Quatrième fois. Elle a l'air angoissée et parle d'une voix timide. Je ne comprends pas pourquoi on me demande les cotisations pour 2014-2015 alors que je les ai déjà payées. L'agent, vous avez fait les déclarations ? Oui, mais je me suis déclarée comme bio-énergéticienne ostéopathe, alors qu'en fait, je ne peux pas afficher ostéopathe, car je n'ai pas le diplôme d'État. C'est compliqué. Pour nous, c'est une prestation de service. Alors là, plongeant dans son écran un long moment, vous êtes sûr que vous avez fait les déclarations ? Moi, je n'ai rien à l'écran. Pour pouvoir avancer, il me faut vos déclarations. L'assuré. Mais j'ai déjà payé, j'ai fait des chèques qui ont été encaissés en juin 2015 et en octobre 2015. Moi, je n'en ai aucune trace dans mon dossier. Je n'ai pas 2012, 2013, 2014, 2015. Ça doit être sympathique à entendre. Écoutez, ce n'est pas possible, je viens de payer 2015. Je n'ai pas reçu la validation. Et au lieu de me la donner, vous me demandez 2012. Au lieu de m'aider, vous mettez ma parole en doute. L'interaction se tend. Donc là, La métaphore de la tension est vraiment pertinente. L'agent s'en tient à son écran et l'assurée s'énerve en jurant qu'elle n'a pas payé, puis demande à voir un responsable. Après explication avec le chef de l'accueil, il apparaît que suite à sa demande de changement de catégorie, le RSI a fermé son dossier informatique et en a recréé un autre sans tenir compte des cotisations qu'elle avait payées. Donc il va falloir à nouveau revenir avec ses déclarations pour que son dossier soit mis à jour. Enfin, vraiment, le dispositif qui a été extrêmement mal géré, enfin, apparemment, avec des problèmes technologiques et des problèmes d'organisation liés qui ont contribué à encore plus éloigner des petits indépendants fragilisés de l'incision fiscale, alors que ça avait pour vocation le contraire, quoi. C'est quand même assez frappant. Mais tu précises bien que les difficultés informatiques ne sont qu'un aspect de ces interactions malheureuses, en particulier chez les petits indépendants, parce qu'il y a vraiment une grosse différence, hein, entre petits et... Enfin, grande différence, pardon, entre petits et gros. Mais c'est aussi un rapport très actif. Là aussi, les ressorts du droit sont mobilisés, bien sûr. Et plus on est un gros indépendant, et plus on va du côté de la juridicisation des outils de gestion de la fiscalité, avec un élément très très important ici où on retrouve des analyses. Je vais y revenir sur l'éthos des indépendants, parce que là, tu évoques les contraintes temporelles dans lesquelles ils sont placés. C'est-à-dire, il faut pour un indépendant, il faut arriver à gérer la complexité temporelle de l'impôt, en fait. Et c'est au fond à ça qu'on peut distinguer les indépendants qui s'en sortent des autres, quoi. C'est ceux qui ont un ethos économique suffisamment sophistiqué pour intégrer la complexité temporelle des différents prélèvements fiscaux, de la complexité du régime fiscal. Et là, bon, à nouveau, il y avait des extraits d'entretien, mais je vais... Alors justement, voilà, question possible, c'est comment tu choisis tes extraits d'entretien ? Ils sont très bien choisis, je trouve, donc c'est toujours une question, quoi. Tu cherches vraiment le plus illustratif d'un point que tu viens d'avancer. Est-ce que tu as un critère de représentativité de tes enquêtés ? C'est une question que je me suis posée, c'est-à-dire... parce que finalement, tu donnes assez peu d'informations biographiques, sociologiques sur les enquêtés. Par exemple, de plus en plus, dans les analyses Quanticali, on essaie de visualiser les trajectoires biographiques des agents dans un espace, on les situe, on voit un peu où ils sont, et ça permet de dire, bon voilà, on a à peu près équilibré les différentes fractions. Donc voilà, ma question, c'était une question vraiment méthodologique, c'est comment tu choisis ces extraits d'entretien que je trouve très parlants et rendant le livre très vivant et permettant de vraiment de voyager dans l'espace des classes sociales et de leur rapport à l'impôt. Mais voilà, c'était un peu ça mon interrogation ici. Alors, je continue avec les deux chapitres qui suivent. Je vais aller un peu plus vite, qui mettent donc deux formes d'attitudes pratiques. Je l'ai déjà dit, et pas forcément donc des choses qui sont déclarées quand on répond à un questionnaire, voilà, ou même dans un entretien de manière aussi évidente. On les voit par d'autres canaux. C'est la contestation de l'impôt, c'est les mobilisations fiscales, c'est les mouvements sociaux, etc., la protestation. Ça, c'est le chapitre 6. Et c'est, alors là, on le voit encore moins, c'est encore moins déclaré, c'est le cas de le dire, on utilise le mot déclaré, c'est tout ce qui relève de la transgression. La transgression, ça pose le problème, on ne la dit pas, quoi. Donc, ce n'est pas les entretiens qui vont révéler les transgressions et le rapport à la transgression. Enfin, ça peut l'être, hein. C'est tout le problème de la sociologie de la déviance, c'est d'arriver à créer des conditions d'enquête qui permettent d'observer des attitudes déviantes, des rapports à la déviance, etc. Mais voilà, là, c'est un peu compliqué, donc c'est pas tout à fait le même matériau, même si tu vas quand même mobiliser aussi des entretiens. Donc le chapitre 6 permet de revenir sur les mobilisations, en partant de l'histoire très longue, puisqu'au fond, la révolte accompagne l'émergence de l'État fiscal en France, il y a un lien vraiment étroit entre les deux. Alors tu nous dis une chose sur laquelle j'aurais une question, qui est que les mobilisations récentes sont finalement de relativement basse intensité par rapport à celles des années... si j'ai bien compris, 50 et 70, quoi, qui sont un peu les points d'émergence de la mobilisation antifiscale sous une forme qui peut être parlementaire ou qui peut être simplement un mouvement social comme NICOU dans les années 70. En fait, voilà, je me demandais ce qui te permettait de dire que c'était moins intense, parce que moi, j'ai l'impression que c'est quand même très intense dans la période récente, mais j'ai pas de données, en fait. Donc la question, c'était... là, t'as pas quantifié, pour le coup, comme au chapitre 1. Et je me demandais dans quelle mesure, voilà, tu avais hésité ou tu avais l'intention plus tard, pour d'autres travaux peut-être, de mettre un peu plus en série ces éléments, par exemple la conflictualité fiscale comme élément de la conflictualité sociale. Ça me paraît un élément intéressant de l'histoire longue, en fait, à mettre en regard de l'histoire des inégalités. Enfin, je pense aux données de Piketty, bien sûr, mais d'autres. Donc, tu n'as pas d'hostilité de principe à la mise en série, puisque tu la pratiques pour les médias, etc. Mais tu ne l'utilises pas tellement dans d'autres chapitres, quoi. Et en fait, voilà, je me suis demandé si ça ne serait pas intéressant. Bon, c'est là, c'est mes intérêts un peu personnels du moment, parce que j'ai encore relu Simian. C'était sur Simian ma première lecture de LLSS. C'était le livre de Ghislain Steiner sur la sociologie économique. Enfin, bon, bref, ça, c'était une parenthèse. Donc, le renouveau d'une sociologie historique un peu sérielle, d'une histoire économique et sociale. Enfin, il me semble qu'il y a des tendances qui vont dans ce sens. Et tu en participes un peu, il me semble, dans le livre, notamment sur les médias. Mais pas complètement, quoi. Voilà. Donc je me demandais aussi s'il y avait des cycles de court terme. Les économistes parlent beaucoup des cycles politico-économiques. Il y a quand même des séquences politiques bien marquées qui commencent. Je sais pas, Sarkozy commence avec la loi TEPA. Enfin, la dimension fiscale est très très importante. Et les mobilisations ne peuvent pas être séparées, je pense, de séquences politiques bien, bien spécifiques, quoi, de l'histoire politique française, et bien sûr aussi des cycles économiques. Et je me demandais dans quelle mesure il y avait un lien ou pas à faire. Et je pense notamment au cycle économique qui affecte les indépendants. Et à l'intérieur des indépendants, un groupe particulièrement important dans l'histoire sociale française, qui est les agriculteurs, quoi. Évidemment. Voilà, ça c'était ma question. Le chapitre 7, dont je le trouvais particulièrement intéressant, parce qu'il donc il montre en fait que l'État a laissé longtemps beaucoup de marge de manœuvre en fait aux pratiques déviantes. Bon, ça c'est un peu la thèse centrale. Je ne vais pas être trop long, mais elle est, je trouve, bien bien étayée. On a un exemple. Si j'ai un peu de temps, je lis l'exemple page 245. Non, je me suis trompé. 245, c'est sur le chapitre 8. Qui ont permis d'asseoir la légitimité de l'impôt. Le chapitre montre que les marges de manœuvre laissées à l'État à certains acteurs ont permis d'asseoir la légitimité de l'impôt. C'est-à-dire que c'est en laissant, d'une certaine manière, un peu de latitude à certains acteurs qu'on a permis d'éviter, au fond, des crises graves et une remise en cause plus frontale. Ça, je pense que c'est un point vraiment intéressant. Et tu dis ça, c'est en train d'être remis en cause par le numérique, par la disparition du cash, toute une série de transformations monétaires plus générales qui rendent plus complexe le fait de payer au black, toute une série de pratiques qui avaient permis finalement de faire passer en gros la pilule d'un impôt relativement important par rapport à d'autres pays, en tout cas. Et ça, ce serait en train de disparaître, et ça serait une des raisons. Enfin, si on prolonge un peu tes analyses, on peut penser que c'est un des vecteurs du discrédit croissant, de l'effritement du consentement à l'impôt que tu observes de manière plus générale, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu aussi une question, de certaine manière. Est-ce que tu serais d'accord avec cette interprétation qui est présente dans le chapitre 7, mais un peu en... Enfin, elle est présente. Enfin, le chapitre 8, donc j'ai dit qu'il m'avait particulièrement plu, parce qu'en fait, cette fois, tu prends de manière plus frontale la question du rôle moteur des politiques publiques, y compris le discrédit relatif de certains aspects de l'impôt. Et en même temps, tu vas, en utilisant une analyse des correspondances multiples, et pas des composantes, en composantes multiples d'ailleurs, c'est une petite coquille, étudier la diversité des rapports à l'impôt et à l'État, qui va te permettre notamment d'analyser de façon assez subtile des paradoxes. Bon, il y a aussi une série de tableaux où tu croises ce dont les gens ont bénéficié et leurs attitudes à l'égard de l'État, y compris à leur réponse à des questions de différents types. Le fait d'avoir bénéficié d'une aide de l'État n'implique pas de le déclarer. Cela dépend des types d'aides reçues. Voilà, ça complique, à mon avis, beaucoup, mais ça nuance, ça affine beaucoup la perception qu'on peut avoir du rapport à l'impôt et à l'État, quoi. Et ça ouvre du coup à la nécessité d'une analyse multidimensionnelle, l'intérêt d'avoir une ACM, où tout montre qu'il y a une homologie entre l'attitude par rapport à l'impôt et à l'État, globalement, et la position dans l'espace social. Donc là, l'analogie avec le livre de Bourdieu, évidemment, s'impose. On trouve en plus une homologie un peu à la distinction, quoi. Donc je pense que ça t'a quand même... servi de fil conducteur, ce schéma d'analyse. C'est pas seulement la politique publique, c'est la visibilisation, la mise en visibilité de la politique publique qui est en jeu. C'est-à-dire l'État visibilise ou invisibilise une partie de son action. Il a tendance à invisibiliser ce qui légitimerait d'une certaine manière le plus l'impôt, on pourrait dire, et à visibiliser ce qui le délégitime, ce qui est un peu paradoxal, quoi. Et évidemment, là, j'ai beaucoup de questions, en fait. J'aurais beaucoup de questions sur ce chapitre. C'est-à-dire, Bah, d'abord, voilà, l'idée que même s'il y a une continuité des politiques publiques néolibérales, il y a évidemment différents types d'acteurs. Il y a un espace bureaucratique qui est très complexe et un champ politique qui bouge aussi. Et donc j'aurais envie de te demander peut-être de spécifier un peu plus par séquence politique et aussi en termes d'acteurs politico-bureaucratiques, ce qui reste un petit peu général dans cette me semble-t-il, hein, c'est comme ça que je l'ai perçu dans ce chapitre, même si je pense que le constat global, hein, je le partage complètement, c'est effectivement les politiques publiques en matière fiscale et en matière de communication sur l'impôt contribuent à délégitimer délégitimer l'impôt. Voilà, on a dans les paradoxes, j'en relève juste un pour finir. Il y a le fait que, donc, comme je le disais tout à l'heure, les classes populaires sont les plus hostiles à l'impôt sur les successions, alors qu'elles ont peu ou pas de patrimoine à transmettre. Mais celui-ci est identifié au travail d'une vie et à la possibilité d'accéder à une forme d'indépendance. Et d'une certaine manière, ça reste quand même, ou c'est peut-être plus que jamais, le désir dans de larges fractions des classes populaires salariées. Et avec bien sûr l'accès à la maison individuelle. Donc ici, la question principale, je l'ai déjà formulée de manière un petit peu rapide, mais que je voulais poser, c'est celle du rôle des divers acteurs de la chaîne de production des politiques publiques, y compris les économistes, les partis politiques, les organisations syndicales et surtout patronales, c'est-à-dire le champ de production des discours qui vont délégitimer l'impôt depuis, en particulier, le début de la période néolibérale, c'est-à-dire la fin des années 70, et qui n'ont fait que gagner monter en puissance depuis lors. Et là, il me semble que il faudrait introduire vraiment tous les éléments de cette chaîne ou de ce champ de production assez complexe, dans lequel, par exemple, les économistes, je pense, ont eu un rôle assez important. Mais on pourrait aussi évoquer le rôle de la Commission européenne, le rôle des organisations internationales, enfin, pointant dans la France un pays où la fiscalité est particulièrement lourde et particulièrement négative pour le travail. Enfin voilà, il y a tout un discours qui est une doxa, en fait, mais une doxa qui est omniprésente et qui nourrit, en fait, pas seulement le discours des acteurs publics, le discours des acteurs politiques, mais qui nourrit aussi le commentaire journalistique quotidien et qui nous imprègne tous, en fait, parce qu'on est tous immergés dedans. Et alors peut-être moins dans les classes populaires, parce qu'elles ont un rapport oblique aux médias, tout ça, mais elles en sont quand même, de fait, également, comment dire, tributaires, d'une certaine manière, ne serait-ce que par l'absence d'alternative, c'est-à-dire l'absence de discours très légitime qui porterait un projet de renforcement d'une fiscalité progressive, d'impôts importants, etc. On voit bien avec la séquence Hollande, quoi, où les hausses fiscales au début vont complètement se retourner et vont avoir pour effet un effet assez catastrophique de délégitimation générale de l'impôt, en particulier dans les classes populaires. Enfin, je ne sais pas si tu me suis sur cette analyse, mais c'est un peu là ta conclusion, même politique, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, je vais finir là-dessus. Donc tu appelles au fond à une refonte, à une clarification de la relation entre contribution et service public. Bon, je n'ai pas été assez précis sur les points, à mon avis, très intéressants qui sont donnés dans le livre sur tout ce que l'impôt permet d'offrir, en fait, aux citoyens et dont ils n'ont pas forcément conscience. Tout ce qu'il permet d'offrir aux classes populaires, mais qui va être pointé comme lourdeur, charge, etc. Mais tout ce qu'il offre aussi aux classes supérieures et qui va être invisibilisé. Et ça, c'est un point évidemment très important. Et donc, toi, tu demandes une clarification qui en appelle, me semble-t-il, implicitement à une refonte radicale, donc à une forme de réforme radicale de l'impôt, mais pas forcément une remise en cause totale du système fiscal, mais aussi, je pense, enfin, tu vas me dire si tu es d'accord, mais une forme d'éducation populaire, c'est-à-dire que ce qui manque vraiment là, c'est on n'apprend pas, en fait, à quoi sert l'impôt, même à l'école, enfin, je veux dire, c'est au collège, au lycée, il y a très peu, en fait, j'ai réfléchi, très peu de cours en éducation morale et, comment ça s'appelle, civique, EMC, je pense pas qu'il y ait beaucoup de cours sur l'impôt, alors que ça devrait commencer par ça, enfin, je veux dire, le pacte républicain, on a plein de mots, là, on se paye de mots, mais ça devrait être des objets de discussion dans les classes.
Les contributions.
Voilà. Exactement.
Contribution et pas l'impôt.
Voilà. Enfin, exactement. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on devrait justement, enfin, dans la lignée de ce que propose Alexis, commencer par décrire ce que sont les services publics, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils procurent, qu'est-ce qu'ils ont permis de faire historiquement, etc. Ça, toutes choses qui sont très largement invisibilisées par beaucoup d'acteurs, en fait. Voilà. D'où, d'ailleurs, alors j'ai pas employé le terme, mais il me semble quand même que la contribution idéologique d'un certain nombre d'acteurs est assez importante. Donc ça, c'était mes trois dernières questions. Il y avait, enfin, trois derniers points. Il y avait donc l'aspect idéologique quand même des cycles, et là on est vraiment peut-être au bout d'ailleurs d'un cycle néolibéral de délégitimation. On se demande ce qui peut venir après de l'état fiscal, des politiques publiques interventionnistes, etc. Ça, c'était donc la perspective socio-historique en mettant peut-être un peu plus d'idéologie dans l'analyse. À travers l'analyse du discours, je veux dire, j'entends pas idéologie dans un sens. Enfin, l'idéologie au sens de la production d'idéologie dominante dans Bourdieu et Boltanski, quoi. Voilà, c'est dans ce sens-là. J'avais une question sur j'ai parlé d'inspiration bourdieusienne, un peu de l'inspiration de la distinction, etc. Et je me demandais, mais tu n'utilises pas la notion d'habitus ou la notion d'éthos, et si ça t'aurait pas permis d'élargir un peu, c'est-à-dire de te demander dans quelle mesure l'attitude à l'égard de l'impôt et des services publics, c'était aussi une attitude à l'égard de la monnaie, à l'égard du travail, à l'égard de l'épargne, enfin à l'égard de toutes les composantes de l'éthos, en fait. Et tu fais il y a des références, il y a des éléments, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, hein, du tout. Mais voilà, je pense que cette dimension un peu d'anthropologie économique plus fondamentale pourrait permettre d'aller encore plus loin, peut-être en utilisant d'ailleurs des données qui ne sont pas forcément dans l'enquête Ellipse, mais qui sont peut-être dans d'autres enquêtes, comme je l'ai dit au début. Et dernier point, la comparaison internationale dans le livre, elle est quand même surtout limitée, pour l'essentiel, aux États-Unis. C'est-à-dire que tu as des références américaines, et le contre-exemple, c'est l'autre exemple. Souvent, d'ailleurs, anticipe des évolutions qu'on voit ici. J'ai pas le temps, mais voilà, tu dis quand même beaucoup de choses, hein, sur la période récente aux États-Unis, qui sert un peu de référence. Mais quid des États-providence, de la Scandinavie, de situations qui sont aussi prises souvent comme exemple d'une autre forme de rapport à la fiscalité, peut-être plus légitime, qui a réussi, malgré beaucoup de changements, de réformes, etc., parfois assez radicales, à préserver quand même les grands traits d'un modèle plus social-démocrate. Enfin, voilà, je me posais un peu cette question du statut que tu pouvais donner à la comparaison, dans un travail qui reste centré sur la France de toute façon, mais où le point de référence est quand même de manière prédominante les États-Unis, un peu l'Union européenne, mais assez peu finalement, alors que tu as travaillé beaucoup sur les classes sociales en Europe. Et donc voilà, je m'arrête là-dessus.